Mais quelle belle idée vous avez d'écouter Graphite, vous avez bien raison, bienvenue sur l'antenne, vous écoutez Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h, Jean-Noël avec vous pendant une petite heure, on va feuilleter l'actualité scientifique pendant cette émission de Biotine. Vous nous écoutez sur Graphite, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet, que ce soit en direct ou en podcast, et également sur la bande FM 94.9 sur la bande FM pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Nous sommes aujourd'hui le 9 mars, vous pouvez également réécouter l'émission lors de la rediffusion le mardi matin, et donc l'émission de ce samedi 9 mars où il n'y a pas de journée internationale pour l'instant répertoriée pour cette date, ce qui signifie que du coup on peut réserver le 9 mars pour une journée internationale future, il va falloir qu'on y réfléchisse. Pour cette éphéméride de cette émission, eh bien on va s'intéresser à ce qu'il s'est passé un 9 mars. Par exemple, en 1911, la France a décidé d'abandonner le méridien de Paris pour se caler avec le méridien de Greenwich. C'était en 1911. Il y a peu de temps, il y a 4 ans, en 2015, l'avion solaire Solar Impulse 2 décollait d'Abu Dhabi pour un grand tour du monde sans carburant. Et le 9 mars 2016, l'éclipse solaire totale est visible en Indonésie et en Micronésie. Si on s'intéresse à ceux qui sont nés un 9 mars, on peut penser par exemple à Jacques Monté. Il est né le 9 mars 1722. C'est un chimiste français qui a étendu ses recherches sur un grand nombre de sujets différents, mais qui appartiennent d'une façon générale à l'histoire naturelle. Il a travaillé également sur la physique, l'agriculture, notamment au niveau de la Cévenne, au niveau des Cévennes, pardon, également des travaux jusqu'à l'Hérault, la montagne de l'Espérou. Tout ça a été publié dans les Mémoires de l'Académie des sciences de Montpellier. Un grand chimiste français qui a également participé en rédigeant pas mal d'articles de chimie, et il les a fournis à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Il a consigné les résultats de ses expériences, et donc Jacques Monté était né un 9 mars 1722. Il est mort à 60 ans à Montpellier. Et en 1782, voilà, c'était dans le 18e siècle. Si on se rapproche de un peu plus de nous, on va s'intéresser également à Walter Korn, qui est lui né le 9 mars 1923 à Vienne, et il est décédé il y a pas longtemps, en 2016, à Santa Barbara en Californie. C'est un physicien autrichien naturalisé américain. Il est le fils de Salomon Korn, qui avait une affaire de cartes postales artistiques, et il émigre en Angleterre au lendemain de l'annexion de l'Autriche par le gouvernement nazi grâce à l'opération Kinder Transport menée par le Royaume-Uni. Mais ses parents ont été assassinés par les nazis. Alors le fils Walter Korn a été envoyé également ensuite au Canada en juillet 40 par le gouvernement britannique. Et après quelques années de résidence dans le pays, il intègre l'université de Toronto pour ses études de mathématiques. Il obtient une thèse de physique également à l'université d'Harvard en 1948. Et il va commencer sa carrière de chercheur à l'université de Carnegie Mellon. Il devient naturalisé américain. Il devient le premier directeur de l'Institut de physique théorique de Santa Barbara. Puis en 1984, le directeur du département de physique de l'université de Californie. Il va poursuivre sa carrière jusqu'à sa retraite. Il a joué un rôle important dans le développement de la théorie de la fonctionnelle de la densité. En fait, ça permet d'incorporer des effets de la mécanique quantique sur la densité électronique. Et cette simplification informatique a conduit à de nombreuses explications, et elle est devenue en fait un outil essentiel pour les matériaux électroniques et pour leur structure atomique et moléculaire. Il a apporté véritablement de vraies avancées scientifiques dans ce domaine-là. Il a reçu le prix Nobel en 1998, le prix Nobel de chimie, pour son développement de la théorie de la fonctionnelle de la densité. Ne m'en demandez pas plus, parce que je ne sais pas précisément ce qu'il cache derrière, mais en tout cas, ses recherches ont été vraiment importantes pour le fait qu'il a été récompensé en 1998 par le prix Nobel de chimie. Il est né donc un 9 mars 1923, il est mort en avril 2016, il a bien vécu, Walter Korn, qui est donc mort à Santa Barbara en Californie. Voilà, ça c'est l'éphéméride de cette journée du 9 mars. Vous le savez, depuis le début de l'année 2019, à l'occasion de l'année internationale du tableau périodique des éléments, eh bien on remplit au fur et à mesure le tableau avec différents éléments chimiques toutes les semaines. Et là, on va s'intéresser à l'oxygène. L'oxygène, ok, sans oxygène, pas de feu. C'est ce qui se passe, par exemple, lorsqu'un verre est retourné sur une bougie. La flamme consomme l'oxygène dans sa prison de verre et puis après, la flamme de la bougie s'éteint quand elle n'en a plus. Et c'est Antoine Lavoisier qui va identifier l'oxygène comme un élément essentiel à toute combustion, ce qui met ainsi à mal la théorie selon laquelle le feu était présent dans la matière. L'oxygène, c'est un gaz qui devient liquide à très basse température, moins de 218 degrés, et c'est également un aimant suffisamment puissant pour le mettre en lévitation entre ses pôles parce qu'il a un caractère paramagnétique. Il réagit avec la plupart des autres éléments pour donner des oxydes, ce qui est un nom effectivement qu'on emploie très souvent. L'air que l'on respire, il contient de l'oxygène à peu près 21%, donc 1 sur 5 à peu près des éléments est composé d'oxygène dans l'air. C'est ce même air qui est mis sous pression dans les bouteilles de plongée pour nous permettre bien sûr d'évoluer sous l'eau. L'oxygène, c'est l'élément le plus abondant de la surface de la Terre. Il représente 86% des océans, notamment sous forme de molécules d'eau, parce que dans l'eau, il y a de l'hydrogène et de l'oxygène, la fameuse formule H2O, H pour hydrogène et O pour oxygène. Et en fait, le nom d'oxygène vient du grec oxu, qui signifie acide, et également du grec genan, ce qui signifie engendré. Et en fait, c'est Lavoisier qui va baptiser ainsi cela parce qu'il pense qu'il était présent dans tous les acides, l'oxygène, et donc on s'est dit il est donc à la base même de la génération d'oxygène, et c'est pour ça qu'on l'appelait oxygène. Et en fait, non, on le saura par la suite, mais en tout cas, on a conservé ce nom. Le symbole, c'est un grand O majuscule, bien sûr, pour oxygène, et le numéro atomique, c'est le 8, donc dans votre tableau périodique. Eh bien, on remplit le 8. Voilà, c'est Biotine, l'émission de science. Tous les samedis, entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite, on va parler d'actualité médicale, on va parler également de choses... Alors, en lien avec la journée d'hier, qui était la journée des femmes, ou de la femme, d'ailleurs, je ne sais même pas comment on dénomine précisément, on va dire journée de la femme. Hier, il y a pas mal de petites anecdotes scientifiques sur ce domaine-là. Et on va également parler donc santé, comme je vous l'ai dit, et aussi cette étude de la NASA qui a visité une petite île qui est née il y a 4 ans. Et il y a des premières surprises également qui ont été révélé. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette émission. Tout de suite, on écoute un petit titre et on se retrouve juste après sur l'antenne de Graphite pour commencer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique.
Con tu marido. Oh, linde, linde, napi con tu marido.
Olindé, c'était Transcabar sur l'antenne de Graphite, tiré de son dernier album Maligassé. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite, et vous avez bien raison, vous vous tenez informé comme ça de l'actualité scientifique et notamment de ce qui se passe, de cette petite naissance. Alors c'est vrai que c'est un petit peu merveilleux, on aime bien les petites naissances, et là on va parler de la naissance d'une petite île perdue dans le Pacifique Sud au sein de l'archipel des Tonga. Elle est le fruit de l'éruption explosive d'un volcan sous-marin. C'était entre décembre 2014 et janvier 2015. On l'appelait Unga Tonga Unga Apai. Elle a très vite piqué au vif la curiosité des scientifiques de la NASA, car ça n'arrive pas tous les jours qu'une île volcanique surgisse comme ça de l'océan. Et c'est encore plus rare qu'elle survive plus de quelques mois à l'assaut des vagues. Unga Tonga Unga Apai. On va l'appeler HTHH pour les intimes, ça sera plus simple. Elle vient donc de fêter ses 4 ans. Et par opposition en 2009, les flots ont rapidement englouti son prédécesseur. C'est un relief émergé issu de l'éruption du même volcan sous-marin. En vérité, HTHH n'est que la troisième île qui arrive en 150 ans à partir de cette île volcanique qui est née d'une manière similaire au large de l'Islande en 1963. C'est à peu près le même principe également que cette île, autre île Surtsey, qui existe encore aujourd'hui. Alors, quels sont les secrets de sa longévité? Combien de temps encore va-t-elle résister à l'érosion? C'est toute la question. Et pour percer à jour cette jeune île en constante évolution, Dan Slaybike et Jim Garvin de la NASA observent par satellite depuis ses premiers instants, et ils essayent d'en savoir un petit peu plus, d'en mesurer le volume et par la suite essayer d'en déterminer la durée de vie. Et donc en octobre dernier, Dan Slaybike a eu l'opportunité de se rendre sur cette île en rejoignant une expédition, et une de ses principales missions était de relever des points de contrôle au sol pour calibrer les satellites. C'est ce qu'il explique, et l'idée c'est d'essayer de préciser un petit peu mieux les mesures que l'on a. Et donc depuis l'espace, les satellites voient beaucoup de choses, mais en fait pas tout, et quelques surprises et une bonne dose d'improvisation sont venues pimenter l'expédition. Et donc à son arrivée en octobre dernier, le voilier océanographique n'a pas pu accoster au sud de l'île comme prévu. Elle a dû la contourner parce que les vagues étaient vraiment trop fortes et les plages plutôt abruptes, hein, nous dit-on, plus que ce qu'on voyait par satellite. Nous avons été mouillés, mais heureusement, nous n'avons pas eu à nager, nous dit Dan Slaybike. On est rassuré pour lui. Les scientifiques, justement, n'étaient pas les premiers à mettre le pied sur cette nouvelle Terre. En revanche, c'était la première mission de la NASA sur l'île, dont le nom provisoire est construit avec les initiales de ses deux voisines. Et c'est pour ça qu'on a donc appelé Unga Tonga Unga Apai. Et en quelques années seulement, des habitants ont déjà élu domicile sur cette île. Mon Dieu, à la peine née qu'on est déjà dessus. Des plantes ont colonisé en fait cette île. Une parcelle de végétation s'est développée sur le cône volcanique, probablement apporté là par les oiseaux, et il y a d'innombrables sternes fuligineuses. Ce sont des hirondelles de mer qui ont fait leur nid dans les falaises à l'intérieur du cratère. Mais comme quoi rien n'échappe à la pollution, il y a des visiteurs indésirables qui se sont également échoués sur l'île. C'est ce que regrette Dan Slaybike, parce qu'il y a un tas de déchets plastiques et des filets de perches qui sont prisonniers du lac de cratère qui s'est ouvert à la mer suite à l'effondrement de l'un des flancs de ce volcan. Et donc, il y a une vingtaine d'étudiants qui ont pris l'initiative de ramasser tous ces déchets et de les ramener sur le bateau. C'est quand même assez extraordinaire. Il y a une île qui pousse comme ça, elle émerge de l'eau, et puis en 3-4 ans, ça y est, il y a déjà plein de pollution qui arrive dessus, ce qui est un autre signe également de la pollution marine. L'autre découverte importante, certainement la plus significative pour les recherches de la NASA, a été d'observer de profondes ravines creusées par la pluie sur les flancs du volcan. Depuis l'espace, nous pouvions voir l'érosion par les vagues, mais pas celle qui était due aux précipitations. C'est ce qu'explique Dan Slaybike. L'ampleur de ce processus d'érosion est un élément supplémentaire à prendre en compte pour estimer la longévité de l'île. Cependant, l'île a tout de même survécu à une paire d'ouragans, s'étonne hein, Dan Slaybike. Slaybike, dont peut-être a-t-elle encore une longue vie devant elle, nous dit-on. Nous étions inquiets, mais nous avons regardé après leur passage et il n'y avait pas beaucoup de dégâts visibles sur les images satellites. Et même constat sur place, quelques dommages, mais rien de dramatique, nous dit-on, et c'est tant mieux. conclusion, on pense que cette île pourrait essayer de perdurer entre 6 et 30 ans, ce qui est énorme en comparaison des quelques mois qu'on aurait pu lui prédire en se basant sur ses prédécesseurs, en particulier sur l'éruption de 2009. Il semble que quelque chose ait transformé cette île pour la rendre particulièrement résistante aux éléments, ce qui nous amène à l'autre objectif majeur poursuivi par Dan Slaybach durant ce voyage, à savoir la recherche de signes d'un processus hydrochimique par lequel les cendres volcaniques vont se transformer en une roche dure, capable justement de pouvoir endurer l'érosion. Dan Slaybach nous en dit plus dans un article qui a été diffusé sur différents sites et notamment sur le site de Futura Science, et il explique un petit peu pourquoi cette île représente une bonne approximation du relief de Mars au temps où elle pouvait encore se vanter d'avoir des océans et des volcans actifs. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en étudiant un petit peu l'évolution de cette île, on pourra en tirer des conclusions et des informations intéressantes pour essayer de savoir ce qui se passe sur Mars. Mais voilà, une petite île est née il y a 4 ans et déjà les premières surprises révélées par la NASA dans cet article. Autre information, il n'y a aucune transition, n'en cherchez pas, on va parler des stimulateurs cardiaques. D'ici 5 ans, si tout se déroule comme prévu, les personnes qui portent des stimulateurs cardiaques pourraient ne plus avoir à faire remplacer la pile de leur appareil tous les 5 à 10 ans, comme c'est actuellement le cas. Il y a une équipe de chercheurs de l'Université du Texas qui vient de publier les fruits de leurs travaux sur le système d'alimentation piézoélectrique. En fait, l'idée, ça serait qu'il serait susceptible de se recharger de façon indéfinie, c'est ça qui est intéressant, de recharger la batterie d'un pacemaker à partir des battements du cœur. Ce qui semble finalement assez révolutionnaire, mais quelque part assez logique. Le dispositif se compose d'un film polymère dont la structure peut convertir en électricité les mouvements du filament en plomb qui va relier le stimulateur cardiaque au cœur. Les chercheurs indiquent que ce module pourrait également faire aussi office de capteur pour le suivi en temps réel des patients. C'est ça qui est intéressant également. L'idée, en fait, d'exploiter la notion de piézoélectricité pour recharger un pacemaker, c'est pas une idée nouvelle. Il y a quelques années, en 2012, il y avait une équipe de l'Université du Michigan qui avait développé un prototype de stimulateur cardiaque qui se rechargeait grâce au battement du cœur, mais les chercheurs, cette fois, d'université du Texas, sont allés un petit peu plus loin en testant leur appareil sur des animaux vivants avec d'excellents résultats, disent-ils. Mais bien sûr, le pas franchi pour des essais sur des volontaires humains, quand même un pas assez énorme. Il faut notamment s'assurer que le dispositif pourra fonctionner sans faillir durant toute la vie de la personne qui le porte. Les chercheurs disposent d'un financement pour encore 2 ans de travaux qui devrait leur permettre d'achever la phase de test sur les animaux. Ils estiment que leur système de recharge pourrait être prêt pour une commercialisation d'ici 5 ans. Donc on va faire des tests sur des humains et après, si les résultats sont positifs, eh bien on aurait donc ce pacemaker qui pourrait être rechargé grâce au battement du cœur. C'est assez étonnant, assez bluffant. C'est la technologie moderne, messieurs, dames, et c'est sur l'antenne de Graphite. Allez, on écoute encore un petit titre et on continue par la suite à feuilleter l'actualité scientifique et se poser cette question. Tiens, ça peut être intéressant. Comment on peut détecter une personne qui ment par SMS ? Ah, restez à l'écoute, à tout de suite.
Thank you.
Revolver, c'était Rhodes sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h. Et donc, on va s'intéresser à ces échanges ininterrompus de SMS ou de messages sur un réseau social. Et puis, on se rend compte que notre interlocuteur se montre moins rapide à répondre. Alors, il est peut-être en train de préparer un repas, il est peut-être en train de passer un coup de téléphone, il est en train de discuter avec quelqu'un, on n'en sait rien. Ou bien, si la dernière question prenait une tournure un peu gênante, est-il en train de préparer un mensonge ? Car d'après une étude parue dans la revue ACM Transaction, il y a quelques signes qui peuvent alerter sur la véracité des propos qu'on reçoit dans les messages numériques et l'allongement du délai de réponse n'est pas de bon augure. L'homme est un grand bavard et raconte tout un tas d'histoires, mais celles-ci ne sont pas toujours vraies. Pourtant, d'après Tom Meservy, chercheur à l'université Brigham Young aux États-Unis, malgré la pratique courante de cette mauvaise habitude, nous sommes mauvais pour déceler le mensonge. Nous ne le repérons que un petit peu plus de 50% du temps et une faille dont peuvent profiter les mythomanes en tout genre, bien sûr, d'autant plus que lorsque la communication se déroule de manière numérique à l'aide des outils modernes, c'est un petit peu plus simple. En effet, dans ces cas de figure, il est impossible de détecter, je ne sais pas, le petit trémolo dans la voix de celui qui défend la vérité. Et puis, on n'est pas possible, bien sûr, d'observer les expressions du visage ou du corps qui pourraient trahir son discours. Il y a une étude de 2011 qui confirme même que cela nous rend plus enclins au mensonge. Alors, question, comment repérer les menteurs par texto ? Eh bien, Tom Meservy, avec 4 collègues, a cherché à mesurer les signaux qui pouvaient laisser suspecter le mensonge et il en a détecté plusieurs de ces signaux. En tout, plus d'une centaine d'étudiants regroupés dans 2 universités américaines ont dû répondre aux 30 questions que leur posait un programme informatique conçu spécialement pour l'occasion. Les participants étaient invités à mentir approximativement la moitié du temps pendant que différents paramètres été mesuré. En tout, les auteurs ont récolté près de 1600 messages disant la vérité et une quantité à peu près équivalente de fausses déclarations et l'analyse a montré que les mensonges mettaient environ 10% de temps en plus à être envoyés, qu'ils étaient plus courts, on utilisait moins de mots, mais que la réponse était plus souvent subdivisée en plusieurs messages. Contrairement à ce qu'ils pensaient, en fait, la richesse lexicale ne change pas quel que soit le cas de figure. Ces données qui sont difficilement mesurables à l'échelle humaine, constituent les premiers indicateurs, mais l'étude menée sur un faible échantillon, qui n'est pas trop représentatif, ne s'est pas non plus déroulée en conditions réelles, donc les auteurs en sont bien conscients, ils annoncent déjà vouloir approfondir leur enquête, ils comptent même travailler avec une caméra pour étudier les signes comportementaux associés au mensonge. Alors, quant à cette étude, elle ne cherche pas à expliquer pourquoi ces contenus numériques sont plus longs à être envoyés. Le bon sens nous pousse à croire que ce délai supplémentaire correspond au temps de réflexion nécessaire pour essayer de créer une histoire fausse. Elle s'attelle uniquement à repérer les signaux caractéristiques retrouvés dans les messages numériques mensongers pour aider au développement d'un outil capable de détecter les SMS peu fiables. Alors, si vous êtes enclin à mentir par SMS, eh bien, soyez un petit peu plus rapide à répondre. Et comme ça, on sera peut-être moins enclin à identifier le fait que vous êtes en train de mentir par SMS, mais voilà. C'est une étude à prendre un petit peu à la légère parce qu'il va falloir un petit peu affiner le protocole expérimental, mais en tout cas, ça donne quelques pistes, quelques orientations. Puis quelque part, c'est pas non plus aberrant de se dire que, comme on est en train de construire un mensonge, c'est beaucoup plus long à pouvoir élaborer le discours du mensonge que de dire d'une façon assez spontanée la vérité. Mais bon, ça fait rassurer. Autre chose, toujours dans les technologies modernes, et on va parler des voitures autonomes, et on va essayer d'imaginer les conséquences de l'avènement des voitures autonomes, qui peut parfois conduire à des suppositions aussi inattendue que surprenante, parce qu'au-delà d'une sécurité qui est améliorée et qui nous garantirait un petit peu quelque chose d'assez confortable et sécurisant, le principal bénéfice bénéfice attendu des voitures sans chauffeur, c'est la disparition ou au moins la réduction d'une façon quand même assez conséquente des embouteillages. Ils seraient donc capables de communiquer entre elles ces voitures afin d'adapter leur vitesse. Eh bien, les voitures autonomes nous promettent donc un trafic plus fluide et apaisé. Mais tout le monde ne voit pas les choses d'un œil aussi positif. Il y a un professeur spécialiste en planification des transports à l'Université de Californie. Il s'appelle Adam Millarball. Il pense au contraire que les voitures autonomes, elles pourraient amplifier les embouteillages. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement parce que leurs propriétaires pourraient être tentés de les laisser circuler à vide dans les rues jusqu'à leur retour, plutôt de payer des frais de parking. Je trouve ça génial, en fait. C'est-à-dire que on a une voiture autonome, comme elle est capable de rouler toute seule, on n'a pas besoin de la garer et donc de payer un parking, il suffit qu'elle continue à rouler toute seule, sauf qu'elle roule à vide. Et c'est la conclusion de cette étude qui fait que normalement on devrait avoir moins de véhicules, donc on aurait un trafic un peu plus fluide, mais en fait non, ça pourrait aggraver les embouteillages parce que la circulation serait encore plus dense que cela ne serait encore le cas aujourd'hui. C'est un petit peu l'analyse de ces chercheurs Adam Millarball, et son idée pour essayer d'éviter une telle dérive, ça serait tout simplement d'instaurer un péage dans les centres-villes qui prennent à la fois en compte une facturation horaire d'occupation de l'espace public, que la voiture elle soit stationnée ou en mouvement, et une facturation basée sur la distance ou l'énergie consommée qui viendrait sanctionner les effets liés à la conduite. Alors c'est évidemment très théorique, ça demande d'être vérifié dans les faits, il fallait quand même y penser, mais voilà, c'est assez intéressant parce que finalement on ne les voit que du bien dans ces voitures autonomes, mais les dérives de l'utilisation de ces véhicules fait qu'il peut y avoir des complications sur le trafic urbain, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore évoqué. Alors pour l'instant ça reste encore théorique parce que dans la pratique on n'a pas encore eu la possibilité de pouvoir mettre en pratique l'utilisation de ces voitures autonomes, mais c'est vrai que c'est voilà, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore totalement évoqué. À voir donc. Mais ça, on verra bien sûr par la suite. J'aime bien parce que, en fait, dans ce genre d'informations, on a toujours un petit peu l'idée d'un avenir totalement idyllique. Et il y a toujours deux, trois études qui viennent vous ramener à la réalité en vous disant « Mais non, 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 c'est pas si simple que ça. » À l'occasion de la journée de la femme, juste après le titre qu'on va écouter, eh bien, on va parler de cet article qui va vous faire plaisir, mesdames. Le cerveau des femmes serait plus jeune que celui des hommes. Tiens donc, c'est une étude qui date il y a quelques jours et qui a eu un petit retentissement. On va en parler juste après. We'll be right back. Sweet Jesus, c'était Brian's Magic Tears sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite, et vous avez bien raison. Et à l'occasion de la journée de la famille hier, cette petite information, cette petite étude qui concerne le cerveau des hommes et des femmes qui présentent des différences morphologiques. Par exemple, les hommes ont un cerveau plus gros, mais il y aurait aussi des différences concernant le vieillissement cérébral. Et d'après une étude toute récente de l'Université de Washington, eh bien, on se rend compte qu'il y aurait des différences sur ce vieillissement du cerveau. La faute, en fait, au métabolisme du cerveau qui semble différent chez l'homme et la femme. Le cerveau a besoin de glucose pour son fonctionnement, mais la façon dont il l'utilise varie au fil du temps. Chez les bébés et les enfants dont le cerveau est en cours de maturation, il y a une voie métabolique qui est particulièrement mise à contribution. C'est ce qu'on appelle la glycolyse aérobie. Puis, chez les adolescents et les adultes, cette glycolyse est de moins en moins fréquente dans le cerveau, et après 60 ans, sa proportion atteint un bas niveau. De manière générale, le métabolisme du cerveau diminue avec le vieillissement normal de l'organisme, mais question, existe-t-il des différences entre les hommes et les femmes lors du vieillissement métabolique du cerveau? Alors, pour le savoir, les scientifiques ont étudié à peu près une centaine d'hommes, une centaine de femmes âgées de 20 à 82 ans, et les participants ont passé un examen particulier pour essayer, c'est un genre d'imagerie médicale, en fait, c'est pour mesurer les flux d'oxygène et de glucose, et donc le métabolisme du glucose qui est important dans le cerveau. Et grâce à ces données, les chercheurs ont pu créer un algorithme qui permettait de prédire l'âge des hommes à partir du métabolisme de leur cerveau. Et ensuite, ils ont appliqué cet algorithme pour prédire l'âge du cerveau des femmes à partir donc des données qu'ils avaient reçues. Et résultat, l'algorithme prédisait aux femmes un âge inférieur de presque 4 ans par rapport à leur âge réel. Ensuite, les chercheurs, ils ont fait l'inverse. Ils ont généré un algorithme à partir des données qu'ils avaient recueillies chez les femmes pour prédire l'âge cérébral, et ensuite, ils ont appliqué cet algorithme pour les hommes, et cette fois-ci, l'algorithme donnait aux hommes un âge de près de 2,4 ans de plus que la réalité. Et donc, pour Manu Goyal, le principal auteur de cette étude, la différence moyenne d'âge cérébral calculée entre les hommes et les femmes est significative et reproductible, donc ça signifie que le test est quand même assez concluant. Même chez les femmes les plus jeunes qui avaient moins de 30 ans, cette jeunesse relative du cerveau était visible, et donc pour le chercheur, ce n'est pas que le cerveau des hommes vieillisse plus vite. Il commence l'âge adulte en ayant environ 3 ans de plus que ceux des femmes, et cela dure toute la vie. Le sexe pourrait donc influencer l'évolution métabolique du cerveau avec l'âge. Il explique: « Je pense que cela pourrait signifier que les femmes ne connaissent pas autant de déclin cognitif au cours des dernières années parce que leur cerveau est effectivement plus jeune, et nous travaillons actuellement sur une étude pour le confirmer. » Et donc les chercheurs suivent un groupe d'adultes pour savoir si ceux qui ont un cerveau qui apparaît plus jeune sont moins concernés justement par les problèmes cognitifs en vieillissant. Bref, pour garder un cerveau jeune, il faut être une femme, ou alors à défaut, essayer d'avoir une bonne hygiène de vie, de soigner son alimentation et bien sûr de faire de l'exercice physique. Mais voilà, le cerveau des femmes est plus jeune que celui des hommes. Ça, c'est assez... On n'aurait pas cru, mais voilà, c'est une étude qui vient cette fois de le confirmer. Autre chose, et ça c'est plutôt dans, on va dire, le côté un petit peu savoir étaler sa science, c'est-à-dire ces petits articles un petit peu cocasses, ou en tout cas qui traitent de sujets assez particuliers et qui concernent encore les femmes et les hommes. On a souvent tendance à considérer que l'attirance pour une personne dépend de ses qualités physiques et morales. Et bien pourtant, certaines études prétendent que la séduction passe aussi par le nez, et que les femmes préfèrent l'odeur corporelle des hommes qui produisent des hauts niveaux de testostérone. Ce n'est bien sûr un secret pour personne. L'humeur des femmes change au cours de leur cycle menstruel, mais leur goût aussi. Et en janvier 2012, il y avait une étude qui montrait par exemple qu'au moment de l'ovulation, les femmes aiment dévaliser les magasins de vêtements, tandis que le reste du temps, elles préfèrent se venger sur la nourriture. Alors, c'est un peu caricatural, bien sûr, et je n'ose pas imaginer la réaction de Carole, c'est pour ça que j'en profite de l'évoquer aujourd'hui, comme elle n'est pas là, mais évidemment, c'est un petit peu caricatural, mais il y a quand même, là, ça, on est dans des grandes tendances qui ont été observées. Et il y a également eu des études qui se sont intéressées au goût des femmes en matière de partenaires sexuels et certaines de ces études arrivent à la conclusion qu'au pic de la fertilité, les femmes manifestent plus d'intérêt pour les hommes aux traits les plus masculins, une voix grave, des épaules larges, un visage fin et saillant. Et derrière tout cela, c'est la testostérone, l'hormone mâle bien sûr, qui serait un indice, qui vont guider les femmes vers un mâle fort qui pourrait leur donner une descendance solide. Récemment aussi, il y a une autre étude qui avait mis en avant l'intérêt que les femmes auraient pour les hommes, l'intérêt qu'elles ont pour les hommes avec de hauts niveaux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Elle préfigurerait d'un système immunitaire efficace selon les conclusions de ce travail, mais cela a intrigué quand même des chercheurs de l'université du Nouveau-Mexique à Albuquerque. Randy Thornhill et ses collègues ont voulu vérifier la pertinence de ces résultats et ils ont abouti à des conclusions contradictoires qui ont donc été publié il y a quelques jours dans la revue Evolution and Human Behavior. Et pour cela, ils ont fait une expérience et ils ont pris 46 hommes. Leur tâche, c'était de porter le même t-shirt deux nuits consécutives. Ils avaient aussi quelques restrictions. Ils ne pouvaient pas utiliser de savon odorant, ni de détergent. Ils ne devaient ni boire de l'alcool, ni fumer. Ils avaient interdiction de manger des aliments odorants, du fromage, des oignons, des choses comme ça, hein, pendant ce petit laps de temps pour l'expérience. Il y a des prélèvements salivaires qui étaient effectués afin de déterminer les niveaux de testostérone et de cortisol. Et ensuite, des femmes prenaient le relais. Elles devaient sentir donc les t-shirts. J'adore ce protocole expérimental. Et donc, elles ont senti les t-shirts et elles devaient les noter sur une échelle de 1 à 10 en fonction de leur odeur, selon le caractère plaisant, sexy et leur intensité également en termes d'odeur. Il leur était aussi demandé de remplir un formulaire dans lequel elles devaient notamment préciser dans quelle période de leur cycle menstruel se trouvaient au moment du test et leur utilisation éventuelle d'un contraceptif hormonal. L'analyse des données révèle qu'au pic de leur fertilité, les femmes trouvent les odeurs des t-shirts portés par les hommes avec les plus forts taux de testostérone les trouvées plus sexy et plus agréables. En revanche, rien de particulier ne ressort avec le cortisol et en dehors de ces périodes d'ovulation, eh bien, il n'y avait aucune préférence qui avait été constatée même pour la testostérone. Ainsi, cette recherche aboutit à des résultats en contradiction avec l'étude qui avait été révélée il y a quelques années. Et les torts seront peut-être partagés par cette contradiction entre ces différentes études. Là, dans la dernière étude de cette université du Nouveau-Mexique, on est bien d'accord que prendre 46 hommes, ça fait quand même un panel assez restreint pour cette étude. Et il faudrait peut-être essayer de refaire un petit peu l'analyse avec un nombre plus important de personnes volontaires pour cette étude. Mais en tout cas, voilà, on se dit qu'il y a aussi l'odorat qui aurait un impact assez important dans la séduction. Et donc la conclusion, c'est que les femmes savent repérer les hommes sexy rien qu'à l'odeur. Eh bien, messieurs, faites attention avec votre t-shirt si vous voulez séduire. Voilà, c'était les deux articles à l'occasion de la journée de la femme. Je n'aurais pas osé évoquer cela devant Carole, j'en ai profité aujourd'hui. Et juste après le titre qu'on va écouter, eh bien, on va s'intéresser à cette question concernant les moustiques. Si on essayait de les stopper en leur donnant un coupe-faim, c'est aussi une étude qui a fait parler il y a quelques jours. On voit ça tout de suite sur l'antenne de Graphite.
Dancing down.
you have. C'était Nemdos sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Avant de nous quitter, cette dernière information concernant les moustiques. On a tout ou presque envisagé pour essayer de combattre ces moustiques, les insecticides, les lampes électrocutantes, les pièges qui reproduisent des odeurs corporelles, même aussi lâcher des moustiques stériles génétiquement modifiés. Eh bien, des chercheurs de l'université de Rockefeller à New York ont imaginé une nouvelle piste, essayer de lui couper l'appétit. En fait, c'est la femelle qui pique pour se nourrir de sang, et elle est particulièrement vorace, la femelle moustique. Elle est puissamment attirée par les êtres humains parce que le sang contient des protéines dont elle se sert pour produire les œufs. Pourtant, une fois nourrie, eh bien, cette attirance diminue rapidement et la femelle moustique, un petit peu rassasiée, va rester tranquille pendant plusieurs jours. C'est comme un dîner de Thanksgiving, c'est ce qu'illustre Laura Duval, la doctorante qui a dirigé cette étude publiée dans la revue Cell. L'estomac plein, en fait, elle est moins attirée par la nourriture. Tu m'étonnes, quand elle est rassasiée, elle a plus faim et donc elle ne pique plus. Et donc chez l'humain, la sensation de satiété, elle est régulée par un neuropeptide qui est le neuropeptide Y, et ce neuropeptide stimule puissamment la prise alimentaire, diminue la dépense énergétique et augmente la sécrétion d'insuline. Plusieurs médicaments anti-obésité ont déjà pour cible les récepteurs de ce fameux neuropeptide. Les chercheurs ont donc eu l'idée de vérifier si ces coupes-faim pouvaient aussi fonctionner chez le moustique. Et l'équipe elle a d'abord cherché à vérifier quel récepteur de ce neuropeptide chez le moustique répondait au même composé, et en fait ils en ont identifié un. Mais évidemment, répandre de façon massive dans la nature un médicament humain présente un certain danger. Il fallait donc trouver une molécule qui puisse activer ce neuropeptide chez le moustique, mais pas chez l'homme. Et parmi les plus de 265 000 composés, il y en a 6 qui ont finalement été retenus. Ils sont capables de supprimer l'attirance des moustiques pour le sang pendant 2 à 3 jours. Les moustiques, observant chacune de ces substances diluées dans une... ils vont absorber chacune de ces substances qu'on a diluées dans une solution, et ils se comportent en fait comme s'ils venaient de piquer et de boire du sang. C'est ce que rapporte l'étude. L'odeur d'un bain en nylon porté pendant 10 à 16 heures. Alors, c'est théoriquement irrésistible pour le moustique. Eh bien là, ça le laisse totalement indifférent. Même une souris endormie, qui est pourtant une source de sang frais, eh bien, le moustique n'y a pas touché. L'avantage de ce contrôle comportemental est qu'il permet de réduire de façon temporaire le nombre de moustiques femelles qui piquent les humains. C'est ce que souligne donc Leslie Voshall, neurobiologiste à l'université de Rockefeller et donc principal auteur de cette étude, dans un article qui a été notamment publié dans le journal Le Monde. Dans la mesure où cette approche ne tue pas les femelles, il y a moins de risques que les populations de moustiques développent des résistances, comme c'est le cas avec les insecticides, nous dit-il. Reste à savoir comment convaincre les moustiques de suivre un petit peu cette prescription. La molécule pourrait être administrée par le biais d'appâts qui vont imiter les odeurs corporelles des humains, ou alors des appâts qui vont dégager du dioxyde de carbone. On imagine également fabriquer des moustiques mâles génétiquement modifiés pour que leurs semences contiennent la fameuse substance. Des méthodes jugées compliquées et coûteuses par certains experts. Une faible densité de moustiques suffit à maintenir la transmission de certains virus, souligne par exemple Louis Lambrecht, qui est chercheur CNRS à l'Institut Pasteur de Paris. Et les chercheurs américains espèrent pourtant qu'à terme, cette approche pourra contribuer à la lutte contre le paludisme ou également à la maladie de Lyme, parce que la tique possède elle aussi des récepteurs à ce neuropeptide particulier. Mais voilà, si on donnait un coupe-faim aux moustiques, ils ne piqueraient plus. On a la solution, suffit juste de pouvoir la développer. Et bien écoutez, affaire à suivre dans une prochaine émission de Biotine. C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention et de votre fidélité. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission, bien sûr d'une heure, où nous allons traiter encore de l'actualité scientifique, technique et médicale. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Vous restez bien sûr fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite que vous retrouvez sur internet graphite.net avec l'ensemble des podcasts. Et bien sûr sur la bande FM 94.9 sur la bande FM. Bien sûr, pour ceux qui habitent l'Aisne, l'Oise et la Somme, je vous souhaite une bonne journée. Je vais aller déjeuner. À bientôt. Merci. Au revoir.